Géraldine, bonjour.
Bonjour.
Quelques questions un peu dans la continuité de la discussion de ce matin. Vous avez fait une présentation qui interpelle le regard qu'on porte sur les femmes djihadistes ou les femmes salafistes partant en Syrie. Est-ce que vous pouvez reprendre votre argumentaire de ce matin?
Oui, donc ce matin, je disais qu'effectivement, l'engagement féminin, en tout cas de femmes occidentales qui sont nées, qui ont été socialisées en Occident pour le djihad en Syrie, nous apparaît généralement comme étant contre-intuitif. Parce que c'est vrai qu'autant les hommes...
Qu'est-ce que vous entendez par contre-intuitif?
Voilà, si j'y viens, c'est parce que autant les hommes, voilà, on sait plus ou moins clairement ce qu'ils vont faire là-bas, on arrive à se représenter leur rôle, ils partent, ils sont dans une optique de combat, de violence directe, tandis que les femmes qui partent là-bas, ben, n'ont pas accès à cette même violence. Du coup, c'est vrai qu'on a du mal à envisager ça dans une perspective externe, de se dire que des femmes occidentales partent pour n'être finalement que femmes au foyer en Syrie. Donc c'est vrai qu'on a cette impression que du coup l'engagement féminin sera plus induit sous... Enfin, que l'engagement féminin dans le djihad sera plus le résultat d'une manipulation parce qu'on aurait trompé les femmes sur ce qui les attend véritablement sur place. Donc une femme qui arrive en Syrie sera nécessairement déçue parce qu'elle ne s'attendait pas à finalement n'être que femme au foyer. Et ce que j'essayais de démontrer, c'est qu'au contraire, ça pouvait être un rôle qui était recherché, déjà d'une certaine façon, mais aussi que c'était qu'elles se figuraient que c'était leur devoir individuel en tant que femme d'accomplir ce rôle d'épouse et de mère pour être djihadiste aussi, enfin, pour remplir leur devoir djihadiste à part entière.
Et comment vous menez votre étude? C'est-à-dire, quel est le matériau humain sur lequel vous travaillez?
Disons que ce n'est pas seulement du matériel humain. Moi, je me suis aussi beaucoup intéressée au djihad précédent, parce que c'est vrai que les femmes occidentales dans le djihad, ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est simplement un phénomène qui est devenu plus visible avec le djihad aujourd'hui. Mais du coup, voilà, j'ai travaillé sur les écrits, des fois, de certaines femmes qui ont participé au djihad précédent. Et sinon, je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, généralement, où je privilégie les interactions directes avec certaines femmes qui se reconnaissent en fait dans les thèses djihadistes, qui les tiennent comme vraies, nécessaires pour elles. Et ce qui m'intéresse, c'est justement de voir comment est-ce qu'elles se représentent là-dedans. Et voilà principalement comment je travaille.
On a l'impression quand même que ce départ des femmes est évidemment l'interrogation majeure de nos sociétés. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est la tranche sociale dans laquelle on attend, justement, comme vous le disiez, on a le moins d'éléments d'explication. Bon. Comment classeriez-vous les femmes dans justement cette distribution sociologique qui va depuis le reborn muslim, depuis le type qui a toujours été pratiquant, jusqu'au converti, en passant par les femmes? Vous avez l'impression de motivation commune à toutes ces catégories?
Disons que moi, ce que j'observe enfin, parmi les femmes avec lesquelles je peux discuter, c'est qu'on est majoritairement dans une optique de conversion. Enfin, que même celles qu'on peut désigner nous comme étant des converties, c'est-à-dire sans accroche, sans passé, on va dire, arabo-musulman dans la famille, elles se considèrent aussi comme étant des converties, dans le sens où elles ont, par rapport à la religion des parents, enfin, elles se sont réappropriées aussi l'islam dans une optique plus individuelle. Et puis après, c'est vrai qu'on a des conversions aussi qui ne sont pas rattachées à une histoire d'immigration, mais de pratique.
Mais comment expliquez-vous l'ampleur du phénomène? C'est-à-dire qu'effectivement, on comprend bien des trajectoires individuelles, comme celles que vous évoquiez, mais on est aujourd'hui face à un phénomène d'une ampleur assez significative, puisqu'on dit quand même qu'à peu près 30% des départs en Syrie, aux statistiques du ministère de l'Intérieur, seraient des femmes, et justement dans cette situation de femmes converties. Donc ça devient un phénomène social, là. On n'est plus dans une somme de cas individuels.
Non, tout à fait. Donc c'est vrai que ça apparaît toujours comme étant une incongruité. Enfin, on ne comprend pas du tout pourquoi des femmes pourraient être attirées par ça. Parce qu'on a, je pense aussi déjà, du mal à concevoir la femme dans un rapport actif à la violence. Dans le sens qui va approuver la violence. Donc je pense que ça challenge aussi un petit peu cette perspective-là en se disant que une femme... automatiquement est contre la violence, si on lui montre des images qui sont violentes, elle va plus avoir un sentiment de refus, qu'elle ne va pas pouvoir adhérer. Donc là, effectivement, je crois que sur les derniers chiffres, on est environ sur 46% même de femmes qui seraient impliquées sur zone française.
Mmh, mmh. Donc, dans des actes de violence?
Non, pas dans des actes de violence, mais qui sont sur zone djihadiste en Irak et en Syrie. Donc en fait, 46% d'une partie non combattante, parmi lesquelles, enfin, femmes, enfants, et puis... sans oublier les mineurs hein, aussi de femmes qui sont en proportion assez intéressante. Mais je pense que de toute façon, ça doit aussi nous renvoyer un certain miroir. Parce que comme vous le disiez, moi je pense que le djihadisme, c'est un phénomène social avant tout. Enfin, que discuter du phénomène religieux, c'est une chose, quoi. Mais je pense que c'est juste un aspect du phénomène. Avant tout, c'est un phénomène social. Et que des fois, le djihadisme nous tend un miroir de nos propres sociétés, de nos propres défaillances qu'on n'a pas forcément envie de voir. Et je trouve que les femmes, à ce niveau-là, c'est un très bon exemple, quoi, de se dire que les femmes puissent être attirées, qu'on ne comprend pas comment des femmes puissent être attirées par des rôles, finalement, d'austérité, de contraintes, de règles, et qu'elles nous disent qu'elles se sentent plus libres, finalement, dans l'État islamique qu'en Occident, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre.
Ouais.
Parce que c'est vrai que nous, on a ce modèle de la femme indépendante qu'on a érigé comme un modèle absolu, mais on n'arrive pas à se dire que c'est peut-être justement à cause de ce modèle qu'on a mal défini, qui n'est pas forcément très clair non plus, qu'on a des femmes qui peuvent se retrouver, qui peuvent se retourner vers des choses qui nous semblent à nous complètement dépassées.
Vous avez l'impression que le processus de radicalisation chez les femmes est différent de ce qu'on a dans d'autres tranches de ces départs en Syrie, c'est par exemple les convertis ou par exemple les jeunes de banlieue au parcours chaotique. Est-ce que le processus se fait sur des critères différents? C'est ça ma question, quoi. Est-ce que le politique extérieure joue plus de rôle que l'adhésion à l'islam? Est-ce que c'est au contraire une conversion d'abord, ensuite une sensibilisation à la victimisation du monde arabo-musulman? Est-ce que vous avez l'impression que c'est le même processus pour toutes les tranches de cette population?
Je pense que c'est une question qui est très difficile parce qu'effectivement, il n'y a pas vraiment de profil clair, net. Les processus de radicalisation, c'est difficile parce que c'est quelque chose qui se passe maintenant. On n'a pas de données empiriques. Enfin, c'est très difficile de réfléchir comme ça. Là, je pense qu'on pourrait y répondre seulement dans quelques années. Enfin, là, c'est un petit peu difficile d'y répondre. Après, moi, je constate que les femmes, elles vont rentrer finalement dans le djihad par la même porte que les hommes, qu'il y a un socle de base qui va être validé, donc que ça soit justement une sensibilité à la politique étrangère, par exemple, on est en Syrie, mais dans les pays arabes, enfin, finalement, sur ce qu'on peut appeler les anomalies objectives, hein, qui vont être pointées, des défaillances objectives qu'on a autant dans nos sociétés que dans le traitement à l'étranger, et que du coup, le djihadisme, ou bien du moins l'idéologie proposée par le djihadisme, va à un moment donné apparaître comme étant un choix parfaitement rationnel parmi toutes les offres proposées qu'on a dans notre société. À un moment donné, pour toutes ces personnes, dans chacun des processus, on va se dire, ok, ben c'est ce choix-là, enfin c'est l'État islamique qui répond le plus et puis qui arrive à remettre de l'ordre en fait dans quelque chose qui était complètement déséquilibré, peut-être au niveau individuel, mais aussi surtout au niveau social.
Ouais.
Donc qui remet des normes, qui remet des règles là où il n'y en avait pas, et puis qui propose un modèle de société beaucoup plus clair que ce qu'on peut proposer ici.
Ben écoute, on attend le résultat de votre étude, hein. Finissez-la vite. Merci.
Merci.